Aujourd'hui, nous allons parler du système éducationnel. Le fameux, l'unique, fidèle à ses modèles. Mais la chance de connaître, de savoir, appuie sur le banc des écoles. N'est pas exhaustif dans toutes ses formes. Comprenez-moi le message écriture dans les grandes agglomérations. Doit être prise en compte au niveau de l'éducation. La France.
Alors, notre dernière émission portait sur le rôle du sexe, ou plutôt du genre à l'école, sur les différences de traitement entre filles et garçons. Mais ça ne suffit pas pour comprendre les inégalités de réussite à l'école. Il y a d'autres facteurs qui jouent et qui s'imbriquent. Et aujourd'hui, on a choisi de parler, de regarder quelle est l'influence de la classe sociale sur les résultats scolaires. Alors, si on a choisi de parler sous cet angle, c'est parce que c'est l'appartenance à une classe sociale qui va en grande partie déterminer les résultats à l'école. Et d'ailleurs, non le fait d'être originaire d'une culture d'un autre pays, ou on y reviendra, parce que ça, c'est une question compliquée. En tout cas, comme les discours actuels essaient de le faire croire. Donc la classe sociale, c'est à la fois le revenu, le diplôme, le statut, mais aussi tout un ensemble de valeurs, de pratiques qui sont transmises par la famille et plus largement le milieu dans lequel on est quand on est enfant, adolescent. Et donc, on va se poser la question, les enfants de pauvres ont-ils des chances de réussir à l'école? On va en parler de notre place d'enseignante, et pas comme des sociologues qu'on n'est pas, c'est-à-dire de façon assez empirique, même si on s'appuie pour une part sur des études qu'on a lues. Voilà.
Alors oui, pour commencer peut-être, quelques chiffres, quelques remarques pour savoir s'il y a une corrélation entre la réussite scolaire et la classe sociale. Alors, si on regarde les enfants qui sortent donc du système scolaire sans qualification, ben, on voit que les enfants d'ouvriers non qualifiés ont deux fois plus de risques que les enfants d'employés. Que près d'un tiers des enfants d'inactifs risquent de sortir sans qualification. Qu'un tiers de ces enfants qui sortent donc sans qualification appartiennent à des familles dont aucun parent n'a un diplôme. On voit aussi que les conditions de logement ont une influence très importante, puisque le fait de loger en HLM augmente de 15 points le risque de sortir sans qualification pour leurs enfants, ce qui est quand même énorme. Il y a une étude aussi qui a été menée sur les élèves à l'entrée en 6e en 95. Et ben on voit que 45% des élèves qui ont des résultats faibles, donc ils ont, et ben donc 45% des élèves donc des enfants les plus faibles, contre 22% donc pour ceux qui sont qui réussissent le mieux quoi en fait. Hein. Que au niveau du redoublement des CP, ben les enfants nés pauvres ont beaucoup plus de risques que les autres, que ceux qui sont les plus favorisés. Et voilà. Donc, je ne sais pas si tu as des chiffres à rajouter.
Oui, parce que en fait, ces enquêtes sur l'influence du milieu social, elles ont été faites en France, mais aussi dans d'autres pays. Et là, c'est ces fameuses évaluations PISA dont on a déjà parlé dans d'autres émissions. Et on s'aperçoit qu'en fait, la corrélation entre l'appartenance à une classe sociale et les résultats scolaires, elle est extrêmement forte en France. Elle est deux fois plus forte, par exemple, qu'en Islande ou en Finlande. En fait, la France fait partie des pays, où l'influence de la classe sociale est la plus grande. Donc, on peut remarquer aussi que la classe sociale, outre ce que tu disais tout à l'heure par rapport au descriptif du diplôme, du logement, etc., elle a entraîné une ségrégation de l'espace aussi. Et donc, Et donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les résultats dans les collèges, notamment, ils sont liés aussi au quartier dans lequel on habite et à la façon dont sont constitués ces collèges. Alors, par exemple, on sait que depuis quelques années, depuis en fait que les gens, et ça s'est d'ailleurs renforcé depuis 2007, hein, mais quand les gens peuvent choisir leur collège, ils essayent d'éviter la carte scolaire. Alors, ça donne lieu à une disposition, à une composition.
Ça veut dire quoi, ils évitent la carte scolaire.
Alors, c'est-à-dire, ils essayent d'éviter, quand ça ne leur plaît pas, le collège de leur quartier. Donc, ça donne lieu justement à une espèce de ségrégation sociale. Donc, certains qui habitent en périphérie vont essayer plutôt de se rapprocher des collèges du centre, par exemple, en pensant que ces collèges réussiront mieux. Et alors, ce qui fait que les collèges n'ont du coup pas le même public. Et les classes sociales défavorisées sont plus présentes dans certains collèges que d'autres. Et c'est là où, justement, on s'aperçoit que les résultats des collèges, ils sont amplement fonction de la façon dont sont constitués les publics. Et c'est-à-dire, par exemple, on voit que 8% des collèges qui ont la moitié de leurs élèves avec de milieux favorisés. Alors, ils ont de très loin les meilleurs résultats. Au milieu, on a une grosse masse de collèges où c'est assez mixte. Ça, les résultats sont dans la moyenne. Assez mixte, ça veut dire qu'il y a des enfants de toute catégorie sociale. Et par contre, il y a 20% des collèges qui ont une proportion importante d'élèves d'origine défavorisée. Ceux-là ont des résultats très inférieurs à la moyenne. Donc, ce qu'on voit bien là, mais on en reparlera un peu plus tard dans le cours de l'émission, c'est que quand le public n'est pas mêlé, ça donne des résultats qui sont bien inférieurs à la moyenne. Alors que là où le public scolaire est mêlé, là où les enfants sont de toutes origines, les résultats...
Regarde ce que tu dis sur les résultats où ils ne sont pas mêlés, où ils ne sont qu'entre enfants de riches, ça a l'air d'aller.
Ça a l'air d'aller, sauf que, en gros, quand on regarde élève par élève et catégorie socio-professionnelle, ces enfants de classe favorisée n'obtiennent pas des meilleurs résultats quand ils sont entre eux que quand ils sont mélangés avec les autres. Alors bien sûr, le résultat moyen du collège va être supérieur, mais les résultats individuels, non. Voilà. Donc ça, c'est quand même des enquêtes qui sont extrêmement intéressantes parce que ça va à l'encontre des idées reçues en France. Et par contre, il y a beaucoup d'autres pays qui l'ont compris et qui ne font pas cette ségrégation qu'on a fait toutes ces années. Alors, bien sûr, il y a des réformes différentes qui ont été mises en place. On va d'ailleurs en parler.
Voilà. Simplement pour conclure sur cette partie-là, en fait, ce qu'on voit, c'est que... malgré tout ce qu'on met en place, les écarts de réussite, ils perdurent, voire ils s'aggravent, notamment sur le secondaire, sur l'enseignement supérieur. En fait, ça a tendance à se déplacer, quoi. C'est tout ce qui se passe. Alors oui, donc on va peut-être parler un petit peu des dispositifs qui ont été mis en place pour...
Ouais, justement. Oui, on parle pas on fait pas un petit retour historique.
Voilà, c'est ça, un petit historique des dispositifs qui ont été mis en place pour lutter contre l'échec scolaire.
Et des orientations aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait des réformes qui étaient un petit peu générales ou parfois ambitieuses à certains moments. Et puis, il y a tout un tas de petites choses qui ont lieu à l'heure actuelle qui sont un petit peu plus précises. Et...
Voilà. Alors... Donc, si on regarde un petit peu justement sur les dispositifs mis en place et sur les différentes réformes, ce qu'on voit, c'est que déjà, dans les années 20-30, quand on parlait de rendre gratuit l'enseignement secondaire, c'était pour faciliter l'accès de la culture secondaire donc aux enfants que leurs aptitudes appelaient, alors que la situation de la fortune de leur famille les en écartait. Ça, c'est une circulaire de 1928. Donc, c'est vraiment pour favoriser la réussite de ceux qu'ils méritent, et non pas de tous. Donc, avant 75, donc dans les années 60, il y a comme une massification de l'entrée dans le secondaire, notamment avec la création du collège d'enseignement secondaire par Christian Fouché en 63, qui vise à regrouper tous les élèves sur un même lieu, mais avec des filières différentes. Donc, il y avait trois filières, une dite de lycée, donc assurée par des profs agrégés certifiés, une dite CEG, donc d'enseignement général, assurée par des professeurs PEGC, d'enseignement général de collège, et une troisième filière dite de transition, qui était confiée à des instituteurs spécialisés pour ceux qui n'avaient pas réussi dans le primaire, quoi. Et puis arrive la loi Abi en 75, donc création du collège unique, où il va y avoir une augmentation des taux de scolarisation, puis plus tard l'augmentation de l'accès au bac. Le problème, c'est pour en faire quoi ?
Et quand même, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que collège unique, ça veut dire que tous les gamins vont au même endroit.
Voilà, sauf qu'on va voir que c'est pas tout à fait vrai quand même. Ils vont au même endroit, mais pas forcément sur les mêmes choses. En tout cas, c'est avec cette loi-là qu'on va être obligé de traiter la difficulté scolaire dans le secondaire, puisqu'avant, on écartait les élèves au fur et à mesure, et donc on s'en préoccupait pas. Alors, ce qui a été mis en place, tout d'abord dans le primaire, on commence à parler d'échecs scolaires dans les années 70 et de prévention, et on va utiliser les classes de perfectionnement. Elles ont été créées au début du XXe siècle pour les enfants qui étaient normalement scolarisables, mais qui étaient considérés comme des arriérés, donc ceux qui ne pouvaient pas accéder aux classes normales. Très rapidement, c'est quand même les enfants qui ne s'adaptent pas à l'école qu'on envoie là-dedans. Mais au fur et à mesure, donc à partir des années 50 et 60, ces classes vont devenir de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses. On va y remplir, on va les remplir, et notamment ben, avec les enfants des classes populaires. Elles auraient dû disparaître en 91, remplacées par les CLIS, classes d'intégration scolaire, qui étaient pour le handicap. En fait, elles vont perdurer jusqu'en 2005. Dans les années 70, donc on parle de prévention de l'échec scolaire et on essaye de prendre en compte d'autres dimensions, comme la dimension affective, relationnelle et la dimension sociale. Et on crée les groupes d'aide psychopédagogique, qui étaient des équipes composées de 3 instituteurs spécialisés, donc un psychologue, 2 rééducateurs, un petit peu comme ce qu'on a vu dans les réseaux d'après. On crée aussi des classes d'adaptation qui sont des classes à effectifs réduits pour les enfants en difficulté. Mais une circulaire de 70 explique que certains élèves ont besoin d'être retirés pour un temps de la classe normale qui ne peut ni ne doit s'adapter à eux. Donc c'est clair, hein, on les met à part. Voilà. Et donc ces groupes d'aide psychopédagogique vont être transformés en RASED dans les années 90. Réseau d'aide aux enfants en difficulté, réseau d'aide spécialisé aux enfants en difficulté, où là aussi c'était des enseignants spécialisés, sauf que les enfants n'étaient retirés de leur classe qu'un certain temps dans la journée. Voilà, je dis été parce que il n'en reste pas grand-chose. Très rapidement, donc j'ai dit qu'effectivement il y avait le collège unique qui arrivait en 75, mais en fait on maintient des structures différenciées. Donc, les 6e et 5e à programme allégé, la 4e aménagée, le lycée d'enseignement professionnel, etc., etc. Au fur et à mesure, et notamment avec la loi d'orientation de 89, on essaye de minimiser le nombre de structures ségrégatives. On essaye de mettre tout le monde un petit peu au même endroit, mais on maintient quand même des structures différentes. Donc, on leur donne un air de collège, mais en fait, il y a quand même des différenciations pour les élèves en difficulté avec les 4e et 3e préparatoires, classe pré-professionnelle, en 80 les 4e et 3e techno, etc., etc., quoi. Voilà, donc toujours hein, la façon de traiter la difficulté, notamment dans le secondaire, c'est de mettre les élèves à part. Un troisième type de dispositif, ça a été à partir des années 80 sur l'aide au travail personnel. Donc avec les études dirigées, les études surveillées, donc voilà, soit c'est pour aider à faire les devoirs ou alors pour avoir un temps avec en effectif réduit avec des enseignants, quoi. Voilà. Et puis au niveau là plus collectif, on va dire, au niveau du quartier, on a créé ce qu'on a appelé les ZEP, donc les zones d'éducation prioritaire. Donc c'est Alain Savary qui crée ça en 82, soi-disant pour donner plus à ceux qui ont moins. En fait, d'abord très rapidement, ces ZEB vont être transformés, on va leur donner des tas d'appellations différentes. Finalement, concrètement, ça représentait un effectif moyen par classe de 2 élèves en moins, ce qui est quand même pas énorme. 10 à 15% de budget par élève en plus, c'est peut-être pas mal, mais ça représente 0,5% pardon, du budget du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire une goutte d'eau. Voilà.
Oui, en fait, je crois que pour cette ségrégation, pour la mise à part des enfants des classes défavorisées, on a oublié aussi une chose en parallèle, c'est la mise à part des enfants des classes favorisées. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier la loi de 59, par exemple, qui a permis à l'école privée de s'asseoir vraiment comme il faut en France, c'est-à-dire c'est la création des écoles privées sous contrat. C'est-à-dire avec le même financement de l'État, avec les impôts de tout le monde, on permettait aux gens... bien d'avoir une école où les enseignants étaient payés par l'éducation nationale. Voilà. Et ça, ça a vraiment maintenu le système dans une sorte de statu quo, en quelque sorte, puisque les classes favorisées avaient toujours la possibilité de partir dans ces écoles-là. Voilà. Et donc, bon, le problème perdure, hein. Justement, Savary avait voulu s'y attaquer dans les années 80, et c'est là où il y a eu des manifestations monstrueuses en France de la droite pour réclamer la continuité de l'existence de ces écoles. Alors, concernant les EPS, c'est assez compliqué parce que, effectivement, les évaluations, elles sont très difficiles à avoir. Les chiffres sont vraiment très, très imprécis. Il y a de tout dans les EPS. Alors, même au niveau des financements, c'est très compliqué à savoir quel est le financement qu'ont eu chacune des EPS et donc à connaître les résultats de les effets de ces financements. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a eu une évolution certaine au départ, malgré toutes les réserves qu'on peut mettre sur les renseignements privés, etc. Au départ, il y avait quand même une volonté d'aller dans le sens d'une meilleure, de compenser les désavantages des classes sociales. Mais ce n'était pas seulement une compensation financière, parce qu'on faisait aussi quelque chose au niveau du territoire. C'est-à-dire, on demandait à ce qu'il y ait des projets établis non seulement avec les écoles, mais avec les partenaires du quartier. Et donc, certains se sont vraiment appropriés au niveau local de cette politique-là et en ont fait quelque chose qui soit un projet cohérent, avec des orientations, des projets, des actions différentes. Et on voit justement, parce qu'il y a eu quand même quelques évaluations sur certaines EPS qui sont assez précise qu'il y a des effets qui peuvent être très intéressants. Mais en fait, globalement, c'est pas ça qui s'est passé. En fait, globalement, les gens ont pris l'argent, ce qu'il y avait, et ils en ont pas forcément fait beaucoup de choses ensuite, parce que les gens n'étaient pas formés à faire des projets différents, il n'y avait pas de regard, pas d'analyse, pas de recul, c'était plutôt une somme d'actions. On a fait des choses par exemple, alors en plus il y a eu une dérive petit à petit, on a créé de plus en plus de ZEP, donc ça n'avait plus aucun sens, il n'y avait pas davantage de moyens ciblés sur des zones qui en avaient vraiment le plus besoin. Au début il y avait 5% des écoles concernées, écoles et collèges, après il y a eu 20% des écoles et collèges concernées, donc ça commence à plus avoir de sens. Et donc, il y a une espèce de dilution complètement des moyens. Et puis, avec des actions qui étaient plus ciblées petit à petit, hein, dans les années 80, entre 90 et 2000, sur le comportement des élèves que sur réellement les notions qu'on leur apprenait sur les apprentissages. Donc, on a dissocié ce qui était comportement du reste. Et donc, on est arrivé à quelque chose qui n'avait plus de sens.
Enfin, petit point quand même, s'il y a une augmentation des EPS à ce point, c'est aussi parce qu'il y a une augmentation de la misère d'une manière générale aussi. Je pense que aussi le côté défavorisé, les conditions sociales des familles, moi pour travailler dans un quartier défavorisé justement, c'est dramatique. J'ai pas mis les pieds dans une école pendant 2 ans. Je suis revenue cette année. Je trouve qu'il y a eu un changement social d'un point de vue économique, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique.
Sauf que ce que tu dis, ça correspond vraiment et de plus en enfin ça s'accentue ces dernières années. Et en fait, cette généralisation du ZEP, ça s'est fait dans les années 90 même. Alors quand justement, au contraire, à l'heure actuelle, on les a supprimés, ces fameuses ZEP, c'est-à-dire on les a transformés en leur donnant des tas d'autres noms qui ont plus grand intérêt aujourd'hui.
Ce que j'allais dire,
réseau ambition réussite, etc.
On les a pas supprimés, on change de sigle pensant que ça va changer les choses.
Pas seulement, c'est-à-dire on récupère tous les moyens et en fait maintenant ça n'existe quasiment plus. Il y a à nouveau très très peu d'établissements qui bénéficient de moyens supplémentaires. Et en plus, ces moyens, encore une fois, là, on les axe pour le coup on les lie à la politique de la ville. C'est-à-dire que on les associe complètement au problème d'insécurité et du coup, on donne des moyens pour des actions soi-disant pour lutter contre la violence. Et
ça
non
va
pas
payer
pour permettre
les caméras dans les établissements scolaires.
Tiens, pourquoi pas.
C'est ça aussi, hein, quand même, voilà. Qui encourage. Ça n'a rien à voir avec aider les enfants à apprendre. Hein.
Absolument pas. Voilà, donc c'est vraiment... Et en plus, on appelle ça réseau ambition réussite. Donc ce qui est...
Enfin, maintenant, c'est clair.
Ah,
c'est
voilà.
Plus réseau ambition réussite.
Bien
c'est
sûr,
clair ce dont nous parlait.
On est passé. Alors j'ai oublié, redis-nous, qu'est-ce que ça veut dire.
Alors c'est école, collège, lycée pour l'ambition et la réussite.
Voilà.
Ce qui consiste à donner des pouvoirs hallucinants en termes pédagogiques à un chef d'établissement qui est un manager. qui est formé comme un manager. Alors, c'est dire un peu ce que ça veut dire de ce qu'on attend d'un collège dans un quartier populaire. Mais bon, il y a plein d'autres trucs qui seraient intéressants à discuter sur tous ces dispositifs qui continuent d'être mis en place, soi-disant au nom de l'égalité des chances et qui sont quand même hallucinants, quoi. Je sais pas, tu peux nous en parler peut-être?
Tu voulais rajouter quelque chose?
Non, vas-y. Non. Alors, je continuerai après sur les dispositifs récents.
Donc effectivement, il y a des dispositifs qui sont mis en place, soi-disant, pour essayer de pallier ces inégalités. Et pas du tout. Donc dans le premier degré, par exemple, on a mené la bataille en 2008, on n'a pas gagné. Hein. C'est tout ce qui concerne l'aide personnalisée. En fait, c'est quoi l'aide personnalisée? Retirer 2 heures d'enseignement hebdomadaire à tous les élèves pour qu'on puisse s'occuper des difficultés passagères de certains élèves, donc qui ont des difficultés. Or, on sait très bien que ça ne marche pas, puisque en fait, cette aide personnalisée, elle a été mise en place dans le but qu'on s'en doutait en 2008, et là on voit en 2012 que c'est exactement ça, donc 4 ans plus tard. En fait, le seul but à la création de l'aide personnalisée, ça a été, et c'est, l'élimination des RASED, donc de ce fameux réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté. Les RASED sont morts aujourd'hui, c'est clair, ça n'existe plus, et on a cette aide personnalisée qui est mise en place. Il est évident que ça fonctionne pas pour la simple et bonne raison que ces 2 heures en moins d'enseignement qui étaient à destination de tous deviennent 2 heures de soi-disant remédiation. Donc on essaye de pallier ces difficultés. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait qu'elles sont passagères. Donc il y a des élèves qui n'ont pas de difficultés passagères, ils ont des difficultés constantes. Comment est-ce qu'on fait? Ben ça, on ne sait pas. C'est la grande question. On n'est pas formé pour. Nous ne sommes pas des enseignants spécialisés, nous. Et ensuite, les élèves le vivent comme une injustice, parce que pendant que les autres partent à la cantine, s'amuser au claé ou je ne sais quoi, eh ben ils en reprennent une couche, quoi, pendant une demi-heure. Alors ça dépend dans les établissements comment est organisée l'aide personnalisée. Ça peut être 4 fois une demi-heure. Eh ben eux, ils restent en classe pendant une demi-heure et ils refont du boulot. Et ça, en tous les cas, moi par exemple dans ma classe, ça peut être mal vécu, mais bon, nous, par exemple, on travaille pas, on fait pas la vraie aide personnalisée, mais faut pas le dire.
Mais en fait, ce qu'on peut dire quand même, c'est que toutes ces dernières années, la tendance, c'est justement la personnalisation de l'enseignement. Oui. Et moi, j'ai un élève, pour prendre un exemple concret, qui me demande « On est personnalisé aujourd'hui, maîtresse ?»
Oui.
Voilà. Alors, je trouve ça très drôle. Finalement, j'ai décidé d'arrêter de le reprendre et de l'instaurer comme vocabulaire. Oui, vous êtes personnalisé. Non, vous n'êtes pas personnalisé. Je trouve ça plutôt amusant. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, depuis plusieurs années, on ne veut plus remédier aux problèmes généraux, justement, d'inégalité d'accès au savoir. On fait un espèce de discours en disant, voyez, vous allez voir, on va mettre en relief votre talent. On parle beaucoup de talent, hein, et on va justement mettre des dispositifs d'aide, enfin, pour le coup, un peu général, on va personnaliser votre enseignement pour vous donner toute satisfaction. Donc, l'aide personnalisée, c'en est un.
Oui.
Mais il y avait les projets personnalisés de réussite éducative, voilà, qui en sont un autre.
Exactement. Donc, j'en venais à ce qu'on appelle les PPRE. Effectivement, c'est ça. Donc, voilà. Les programmes personnalisés de réussite éducative. Donc ça aussi, hein, c'est une action spécifique, intensive et de courte durée que l'on doit mener auprès d'un élève. Et alors ça nous fait vraiment chier parce que c'est des programmes, c'est de la paperasse en plus. Il faut qu'on écrive des projets, donc c'est ces fameux programmes. Voilà, moi si je les faisais, donc je n'en fais pas. Si je les faisais dans ma classe, je passerais mon temps à en écrire. Il faudrait que j'en écrive, plein, parce que j'en ai plein des élèves en difficulté. Donc je passerais mon temps à faire de la paperasse.
Mais est-ce que c'est efficace? C'est surtout ça le problème.
Mais non, mais c'est surtout que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'écrit, puisque de toute façon on le fait. C'est-à-dire que c'est, en fait, il me semble que c'est plus un moyen de contrôle, encore une fois, ces fameux programmes personnalisés de réussite éducative, qu'autre chose. Parce que finalement, on fait remonter à la hiérarchie qui ne lit pas, d'ailleurs, soit dit en passant. Parce que pour les inspections, on nous demande de fournir les PPRE. On a envie de leur dire, mais normalement, vous les avez depuis le début de l'année, si vous faites bien votre boulot. Et par exemple, voilà, à chaque inspection, on est censé montrer tous les programmes qu'on aurait écrits en début d'année.
Mais de toute façon, voilà, c'est une façon de dire on va vous aider individuellement, mais en réalité, tout est écrit, mais il n'y a pas de choses qui sont mises en place pour faire que globalement les choses changent. On peut dire que
effectivement, il n'y a pas vraiment de volonté. Et ce qui est aussi dangereux, c'est que la première chose qu'on met en avant au niveau de l'institution par rapport à la difficulté à l'échec scolaire, c'est ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. C'est-à-dire, c'est l'enseignant qui doit, donc, si je reprends les textes, choisir les méthodes les plus adaptées aux caractéristiques individuelles et aux besoins spécifiques de ses élèves. Il doit inventer et mettre en œuvre les situations pédagogiques qui permettront à ses élèves de réussir dans les meilleures conditions. Donc c'est un vœu pieux, c'est très bien. Après, concrètement, ce côté personnalisé pour chaque élève, le suivre au cas par cas, c'est très difficile à mettre en place.
Non, mais c'est très difficile à mettre en place, c'est une chose. Et puis, en plus, cette façon de le mettre en place, c'est tout à fait un leurre. Les moyens qui sont donnés à un enfant pour l'aider, à ce moment-là, en réalité, ne permettent pas de l'aider. On le voit bien que les enfants qui sont en difficulté, on aura beau les prendre individuellement, c'est pas comme ça qu'on va remédier au problème.
Tout à fait.
Voilà. Ouais, justement, ce que je me dis en constatant la multiplication des procédés, parce qu'on pourrait parler aussi des internats d'excellence, on va piocher des gamins, voilà, moyens, mais classes défavorisées, pour montrer que si, quand même, on fait en sorte que les inégalités soient corrigées d'une manière ou d'une autre en prenant des mômes, un ou deux mômes par là et en l'envoyant chez les riches, en lui faisant faire des
du sports, golf, de l'équitation, l'opéra.
Mais en tout cas, ce à quoi ça touche absolument pas, c'est au fond du système qui fait que les inégalités perdurent. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, du coup, se poser un peu la question de pourquoi est-ce que, malgré tout ça, malgré la mixité sociale, malgré les dispositifs machin, PPRE, aide personnalisée,
les stages de remise à niveau,
de toute façon, la logique interne, elle, continue de fabriquer des inégalités sociales.
Je crois que, si on est parti là, donc justement là-dessus, finalement, on parle beaucoup d'égalité des chances, et l'égalité des chances, c'est pas la réussite pour tous. L'égalité des chances, c'est la réussite pour les meilleurs, les plus méritants. Et on considère que chez les pauvres, il y a aussi des enfants méritants et que donc, il faut donner des moyens à ces enfants-là pour qu'ils puissent accéder aux meilleures filières. L'internat d'excellence, effectivement, c'est un exemple très parlant, quoi.
Ouais. Ouais. Ouais, et puis moi, il y a une chose que je me dis, c'est que de toute façon, alors bon, ça va être un peu carré et définitif ce que je vais dire, mais il y a quelque chose qui est attaché au rôle de l'école comme institution de reproduction de l'ordre social, qui fait que de toute façon, l'école, un de ses rôles, c'est de trier socialement. Et ça se voit de plus en plus au fur et à mesure de la scolarité. Autant j'ai l'impression que les gamins sont gardés un peu ensemble, même s'il y a ces trucs d'aide personnalisée, ils sont gardés un peu ensemble au primaire, au collège. Bon, en plus, maintenant, c'est en train de descendre de plus en plus tôt. Hein. Il commence à y avoir du tri entre SECPA...
La professionnalisation qui est de plus en plus tôt.
Voilà, en fin de cinquième, etc. Ouais. Mais alors, à partir de la troisième, là, ça devient vraiment tri entre une élite qui va être destinée à devenir cadre, etc., à monnayer son diplôme sur le marché du travail des cadres, et les filières plus professionnelles, moins valorisées, etc., qui fabriquent une validité scolaire pour des différences sociales ultérieures. Quoi.
Surtout qu'on n'aide pas du tout les enfants de classe défavorisée à comprendre le système et à pouvoir s'orienter éventuellement dans ces filières de prestige. Hein, ceux qui connaissent les bonnes orientations, c'est ceux des classes favorisées.
Ouais, voilà, un des facteurs aussi de maintien des inégalités, c'est que la lecture du système scolaire, elle se fait pas de la même manière selon le milieu social auquel on appartient, en fait. Il y a des stratégies des enfants des familles de milieux bourgeois qui consistent effectivement par le jeu des options, par exemple en fin de troisième, à se démerder pour se retrouver dans les établissements scolaires dont tu parlais tout à l'heure, qui sont des établissements d'excellence, qui offrent des conditions d'apprentissage particulièrement favorables, etc., et qui entretiennent des bons résultats pour tout le monde, mais voilà. Et puis, forcément, si les élèves sont triés, sur le volet.
Ah oui, sur la moyenne, oui. Mais encore une fois, c'est pas parce que les bons élèves sont là qu'ils seront meilleurs. Enfin, ils seront pas meilleurs là qu'ils auraient été meilleurs ailleurs.
Oui, hein. Oui, en plus.
Mais de toute façon, enfin, effectivement, on l'a déjà dit. Hein, l'école française, c'est une école particulièrement élitiste. Et donc, avec cette logique de l'excellence, pour qu'il y ait excellence, il faut qu'elle ne soit pas accessible à tout le monde, quoi. D'où la légitimation de la hiérarchisation des enfants, qui est acceptée par les enfants eux-mêmes, puisqu'il y a le regard qu'on a sur soi qui est très très important. On avait parlé des filles, mais les enfants des classes populaires, c'est pareil. Il y a l'acceptation par les parents, qui n'ont pas les mêmes aspirations selon le milieu duquel ils viennent, mais il y a l'acceptation aussi par les enseignants qui légitimisent ce fait-là, notamment avec les orientations, puisque on sait que les orientations, elles ne sont pas faites en fonction des résultats des enfants, mais sur les pronostics de leurs futurs résultats l'année prochaine. Donc c'est déjà un jugement de valeur qui est porté avant que les choses n'arrivent.
Ouais, puis il y a un truc intéressant, c'est sur l'effet de l'appartenance sociale des enseignants eux-mêmes. Parce que il y a eu un changement dans l'origine sociale des enseignants. Par exemple, les instituts de primaire, il y a, alors je saurais plus dater, mais dans les années 50-60, ils étaient pris à la fin du collège, ils entraient à l'école normale, études payées. Donc il y avait plein de monde qui venait des classes populaires, qui se retrouvaient en classe. Et quand du coup les instituts avaient affaire à des mômes de classe populaire, eh ben, il se trouve que c'était le même milieu. Donc c'est pas le même regard qui est porté sur les enfants, et d'autant plus que les instituts habitaient sur le même lieu. Donc en fait, les références sont communes, l'existence est commune, etc. Après, quand dans les années 80-89, puis sur le collège aussi, il y avait les PEGC dont tu parlais tout à l'heure. Les PEGC, c'est professeurs d'enseignement général au collège, c'est ça ? Donc c'est des instituts qui ont passé des diplômes pour devenir enseignants de collège, mais qui sont aussi d'origine plutôt populaire. En revanche, en 89, tac, on met instit, prof, tout le monde doit avoir DUG, puis licence, puis dernièrement en 2010, bac plus 5. Donc c'est plus du tout les mêmes gens qui enseignent en fait. Non. C'est plus du tout les mêmes gens, et il y a cette espèce de généralisation de rapport aux enfants de milieu populaire, un mépris et une dévalorisation des gamins qui viennent des milieux populaires, qui est vachement fort parce que les enseignants, ils sont pas du même monde, quoi.
Mais du coup, ça renforce quelque chose qui existe déjà, qui est que l'enseignement, il est basé sur les classes dominantes, quoi, sur la culture des classes dominantes. Et du coup, pour que les élèves des classes populaires réussissent, il faut qu'ils assimilent cette culture, ce qui n'est absolument pas évident. C'est-à-dire, dans les savoirs, mais dans les savoir-être, dans les savoir-faire, sur le langage, sur la culture en règle générale. Et dans la mesure où c'est notamment le secondaire qui est vraiment, on l'a vu, fondé sur la sélection par l'échec, la peur de l'échec, c'est pas les plus pauvres qui s'y retrouvent là-dedans, quoi.
Alors encore une fois, quand on compare d'un pays à l'autre, eh bien ça, c'est pas du tout pareil ailleurs. C'est-à-dire que nous, au niveau du contenu de l'enseignement, on s'est effectivement basé sur un certain nombre de valeurs élitistes. Et d'autres pays ont complètement vu les choses autrement. Et notamment par rapport à l'introduction des sciences aussi, la France les a introduites assez tardivement comme discipline de prestige, par exemple, alors que dans d'autres pays, c'était pas du tout le cas. Donc, nous, il y a une espèce de valorisation de la culture littéraire classique qui est vraiment au détriment des enfants de classe populaire. Donc, dans les pays où ça n'est pas le cas, c'est-à-dire quand même dans beaucoup de pays, il y a l'instauration d'un tronc commun qui inclut des matières très diverses et qui fait que les résultats généraux sont bien meilleurs. Et on s'aperçoit d'ailleurs que plus on fait durer tard le tronc commun, plus les résultats sont bons, et au niveau général. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble de la population bénéficie davantage justement de ce qu'ils ont appris à l'école. Donc les résultats de l'ensemble de la population dans ces pays-là sont meilleurs. Mais en plus, si on fait la moyenne de tout ça, et si on regarde où se situe le pays, les résultats sont supérieurs à un pays comme la France. C'est-à-dire que finalement, en faisant attention, à faire un tronc commun, à mélanger les milieux entre eux, on arrive à des résultats qui sont supérieurs. Je sais pas si j'arrive à être claire. C'est-à-dire que en France, on est quand même moins bon. C'est-à-dire les meilleurs de la France, ils sont moins bons que les meilleurs de ces pays-là. Donc on a vraiment tout faux. On laisse plein de gens à côté et en plus, on ne permet même pas la création d'une élite, comme on pourrait comprendre que les gouvernements ont eu envie de le faire. On ne permet même pas ça. Voilà. Donc vraiment, il y a tout à revoir au niveau du contenu et au niveau de la composition des établissements. Voilà. Alors la place du privé aussi là-dedans, eh ben, peut-être il faudrait revenir aussi dessus.
Je voulais juste rajouter un truc sur ce que tu disais sur les contenus en littérature, par exemple. Alors, il y a une chose que je trouve assez parlante, c'est que bon, déjà, la littérature, c'est quelque chose qui classe. C'est de la référence, ce que tu disais, de la référence culturelle bourgeoise. La littérature en général, quoi. Et en plus, dans la littérature, c'est pas n'importe qui dont on parle. C'est-à-dire que tous les auteurs qu'on étudie, voilà, moi je suis prof de français en lycée, hein, ben Zola, Maupassant, Hugo, même quand ils parlent des classes populaires, etc., les contenus, ceux de ce qu'ils disent, tout leur regard, c'est des regards de bourgeois. C'est que des regards de bourgeois. Donc même dans l'imaginaire, ce qu'on représente aux gamins de milieu populaire, c'est des trucs qui sont le regard des bourgeois sur eux, mais ils s'y retrouvent pas. D'une manière générale, ils s'y retrouvent pas. J'avais aussi envie de parler des activités qui sont des activités hors école qui sont valorisées à l'école. À l'école, on parle pas de la pêche, on parle pas de foot, c'est pas ça qui est valorisé. Ce qui est valorisé, c'est le théâtre, un certain cinéma, et pas le cinéma que les mômes de milieu prolo vont voir parce qu'ils y vont au cinéma. Bref, on dit ils ont pas de culture. Ça n'existe pas. C'est naze. Voilà, c'est forcément naze. Donc ça, voilà, ça c'est des trucs. Moi, je pense que ça marche hyper fort sur la réussite des gamins à l'école. Quand on est constamment renvoyé à des choses, soit qui sont à quelque chose qui dévalorise d'où tu viens. Constamment renvoyé à une culture, on te demande d'adhérer à une culture qui n'est pas la tienne, mais ça fait de l'échec en fait. Forcément, ça fait de l'échec. Et puis, on demande aussi aux gamins de se comporter, d'avoir le niveau de langue, un niveau de langue. Toutes les normes scolaires, c'est la norme scolaire qui reproduit la façon d'être dans un milieu bourgeois. Il est jamais question de valoriser, je sais pas, l'emploi de l'argot. Il est jamais question de valoriser les solidarités de base. Il n'est pas question de ça, en fait. Il est question de valoriser le brio. Il est question de... Et d'ailleurs, chez les enseignants, ça fait des choses assez diverses selon d'où on vient. Il y a des enseignants, quand ils viennent de classes populaires, par exemple, ils ont vachement de mal à exclure des élèves en difficulté. En revanche, c'est chez les instits ou profs qui viennent de milieux de classes supérieures, hyper vite, des gamins qui se montrent en échec par rapport aux apprentissages scolaires, ils veulent plus s'en occuper, ou ils les mettent dehors, ou ils les stigmatisent. Voilà. Et puis, ils valorisent pas du tout les mêmes choses. Voilà, on va verra.
Une petite chose quand même que je voulais dire par rapport à ce tronc commun, je voudrais pas qu'il y ait une incompréhension parce que il y a une espèce de SMIC culturel qu'on a mis en place ces dernières années, hein, comment on appelle ça? Ça y est, maintenant, les mots m'échappent, où tout le monde doit avoir atteint un certain niveau de compétence à...
Le socle commun.
Voilà, merci, je le trouvais plus.
Ouais, t'as oublié voilà. Ça?
Eh bien, ce socle commun, là, c'est vraiment un SMIC culturel. Donc, quand on parle de tronc commun, il ne s'agit pas... s'il faut qu'on réfléchisse à un autre contenu à l'enseignement, il ne s'agit pas de faire quelque chose qui soit vraiment quelque chose de base, de minimum, qui soit sans intérêt, quoi. Parce que là, ce qu'on nous fait aussi comme discours, c'est de dire, allez, tout le monde va avoir un minimum de connaissances et ça va être valable de la maternelle jusqu'au lycée. Non, je crois qu'on peut, tout en prenant en compte ce que tu viens de dire là, faire avancer les élèves dans les apprentissages, dans toutes les matières, sans pour autant les réduire à quelque chose d'aussi basique que ce qu'on a fait dans le tronc commun façon française, c'est-à-dire cette espèce de SMIC culturel-là. Donc il faut se reposer la question des contenus vraiment très sérieusement, effectivement.
Mais donc on peut peut-être voir à partir de là, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi.
Oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut. En plus, je pense le qu'est-ce qu'on peut faire, ça peut. On peut éventuellement parler de ce qui pourrait être fait au point de vue du système scolaire en général. Mais bon, c'est quand même pas nous qui sommes aux manettes.
Non, mais je crois qu'il y a quand même des choses à dire, notamment sur le regard qu'on porte sur les élèves. On considère que, de toute façon, ils réussiront pas, quoi. C'est-à-dire que on pense à les enseignants souvent que, à la base, de toute façon, ils n'ont pas les mêmes chances que les uns que les autres. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'ils peuvent réussir, hein ?
Ouais, moi je suis aussi assez attachée à me dire qu'en classe, ce qui m'importe, c'est de considérer que tous les gamins sont intelligents, tous les gamins ils ont des capacités, et que mon boulot c'est de leur faire apprendre, les faire progresser et être dans le plaisir d'apprendre, même si effectivement ce que je suis censée leur apprendre, c'est pas à la même distance d'eux selon d'où ils viennent, ça c'est sûr, quoi, mais que ça n'empêche pas que je vais prévoir leurs difficultés, ou je vais me dire qu'ils pourront pas le faire, qu'ils pourront pas faire ce chemin là
Et puis c'est la place aussi qu'on peut laisser à ce que les enfants amènent de chez eux, enfin de leur culture, de ce qu'ils connaissent, de livres et tout ça, sans porter a priori un regard là-dessus déjà négatif. Effectivement, ils peuvent tous, et puis ils peuvent apprendre les uns des autres malgré tout.
Oui, sans porter effectivement de jugement, ni de valeur culturelle, ni de valeur de connaissance, ni quoi que ce soit. Et pareil aussi, donc aussi bien dans ce que eux ramènent à l'école, mais aussi dans ce qu'ils ramènent à la maison, avec ces fameux devoirs aussi, qu'on n'arrête pas de donner à ces enfants, et qui creusent aussi l'inégalité et l'échec scolaire, parce qu'il y a des enfants qui ont plus de facilité à faire leurs devoirs chez eux, parce qu'ils sont aidés, parce que papa et maman peut payer quelqu'un pour leur faire leurs devoirs, parce qu'ils ont internet à la maison facile, parce que pour plein d'autres raisons. Et d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça la quinzaine sans devoirs, et ma foi c'est une question aussi que nous on doit se poser en tant qu'enseignants, c'est bon, dans le secondaire, je sais pas, mais en tout cas,
c'est super fort la différence.
Dans le primaire, c'est quand même assez facile de pas donner de devoirs.
Ils sont interdits en théorie d'ailleurs.
Et ils sont interdits depuis 56 en théorie, et pourtant on continue, quoi.
Ouais. Alors là, dans le secondaire, c'est compliqué parce que pour le coup, on attend énormément du travail personnel. En gros, on dit à partir de la seconde, il faut que tu passes entre 1h30 et 2h de travail à la maison. Et bon, il y a un truc qui est fondamentalement dégueulasse, quoi. C'est qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de gamins, je sais pas, les parents, par exemple, ils ont des horaires de merde. Ils finissent à 10-11 heures. Ils sont pas là pour aider les mômes, quoi. Et puis là, vraiment, ce qui est en train de se passer au lycée, c'est que le nombre de gamins qui se font payer des cours particuliers dans toutes les matières où ils ont des difficultés. Il y a des investissements financiers dans le soutien aux gamins pour leur réussite au lycée. Là, pour le coup, la question de la situation économique, des financières précisément des familles, elle compte énormément.
Mais je crois que quand même, c'est une chose qu'on n'a pas redit là, mais les changements dans l'éducation nationale, ils sont aussi faits pour ouvrir le marché de l'éducation nationale au privé. Toutes ces aides personnalisées qu'on dit faire en classe, ça ouvre la porte justement à l'enseignement privé comme donneur d'aide personnalisée.
Oui, après l'école, toutes ces boîtes qui s'ouvrent un peu partout et qui sont d'ailleurs parfois... ces soutiens-là sont donnés par des profs. Hein.
Oui,
profs d'éducation nationale qui veulent se faire du beurre en plus, quoi, voilà. Pour arrondir leur fin de mois. Ouais.
Mais alors, comment ça se fait que dans les autres pays, on n'a pas les problèmes aussi énormes qu'en France ? Enfin, bon, tous les pays ne sont pas roses, il ne faut pas exagérer. Oui. Hein. Mais je veux dire, avec des situations semblables, il y a des gens, il y a des systèmes qui arrivent à être mis en place de façon différente, où il y a moins de devoirs à la maison, où les devoirs, le travail personnel, il existe forcément, le travail personnel. Plus on avance dans sa scolarité, plus il existe. Mais il est encadré, il est fait dans les établissements. C'est possible de mettre tout ça en place. Donc, si on ne veut pas le faire en France, est-ce que si on ne le fait pas en France, c'est quand même parce qu'on ne le veut pas. C'est parce qu'on ne veut pas qu'on ne change pas ces choses-là. C'est possible de les changer. Ce n'est pas une fatalité qu'il y ait des différences entre les classes sociales comme ça.
Ben, peut-être, moi, je voulais donner juste un exemple, qui est l'école de Mons-en-Barœul, qui en 2001, avec la volonté d'une équipe d'enseignants, s'est lancée dans la pédagogie freinée. Donc, c'était des écoles où il y avait énormément de difficultés scolaires, où il y avait énormément de violences, et ils ont vu en quelques années les différences au niveau des attitudes, des problèmes qu'il pouvait y avoir de violence, mais également des résultats. Mmh. Donc, c'est faisable. C'est-à-dire qu'il faut changer le mode de fonctionnement, la façon de faire, d'enseigner, d'évaluer, de cette évaluation omniprésente qui sélectionne très tôt.
Ouais. Par exemple, j'ai lu qu'en Finlande, on ne faisait pas d'évaluation avant 13 ans. Et l'effet évaluateur, par exemple, au lycée, c'est un truc qui est hyper fort pour fabriquer de l'échec. C'est-à-dire que dès qu'on fait une évaluation, on aura bien pu faire... Enfin, je parle vraiment personnellement parce que là, c'est des trucs qui m'arrivent tout le temps. C'est que les gamins, ils auront pu être dans des travaux super intéressants, tous, mais vraiment tous. À un moment donné, on fait, par exemple, un type examen de seconde. Et là, quand on se met à noter, de toute façon, quand on note, il va y avoir les bons, les mauvais. On va fabriquer la moyenne de 10. Ça s'appelle la constante macabre. Donc... quoi qu'il en soit, juste le fait de mettre des notes, de faire une évaluation chiffrée, ça va fabriquer des gens en échec. Des gens qui ont réussi, des gens en échec, et des inégalités qui vont coller plus ou moins aussi aux inégalités sociales. Bref, moi je pense que par exemple, faire le moins possible d'évaluations chiffrées, c'est vachement mieux que d'en faire. Bon, je dis ça, là d'où je viens, c'est compliqué.
Une petite phrase pour conclure, peut-être. Je sais pas, vas-y.
Moi je vais juste dire que ouais, et moins t'en fais, plus tu te fais taper sur les doigts. Parce que c'est pas du tout, pas du tout dans l'air du temps.
C'est pas dans l'air du
temps. Et cette culture du résultat, elle est terrible. Parce que plus ça va, et c'est pour faire le lien aussi avec ce que je disais tout à l'heure en brève, c'est-à-dire que notre hiérarchie ne regarde que ça. Et si on n'a pas les bons résultats, eh ben c'est qu'on est mauvais prof, quoi.
Ça servira à nous gérer aussi. Mais de toute façon, c'est pas dans l'air du temps, puisque rappelons-nous ces fameux livrets dont tu reparlais tout à l'heure, qui est base élève, qui est lié aux autres fichiers, etc. N'oublions pas que de toute façon, après, tout cet ensemble de choses, ça sera dans le livret sur la formation, qui sera un livret sur la qu'on se trimballera toute la vie entière avec nos résultats scolaires de la maternelle à l'université. Ça déterminera aussi vraiment là très directement notre place dans la société. Mmh. Bon, donc, il y a une logique dans tout ça.
Juste sur une piste aussi, donc rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais une piste à mon avis pour nos classes aussi, c'est développer la coopération entre élèves et l'entraide, c'est-à-dire lutter contre cette idée de compétition, de personnalisation, d'individualisation et que les gamins sont responsables. Et moi, je pense qu'un des trucs qu'on peut faire, une autre mesure, c'est faire en sorte que les gamins apprennent ensemble, qui développent l'intérêt et la richesse de la coopération. Voilà. Et ça, c'est des pratiques pédagogiques qui, bon, c'est des tout petits grains de sable, hein, mais moi j'y crois d'abord parce qu'en plus c'est hyper bien à vivre, quoi.
On va peut-être rester là-dessus, c'est une petite note d'optimisme malgré tout.
Du coup, on termine sur peut-être la musique de Tang.
Voilà, d'accord.
Absence non justifiée, bloc notre école, prisonnière la tête à dos, tout élève fantôme. Résultat catastrophique, manque à la bref, prise en otage, l'obscurité, trou noir, sauter les états, soustraction, soustraire, couler à pic, crise des générations, les bêtes, tout bordel s'accumule, injure, insulte envers les moniteurs, père de père, son enfant, roi, chouchou t'es gâté.
Mon enfant, assieds-toi face à moi. Tu as bientôt 10 ans, alors écoute-moi. Ce que j'ai à te dire ne prendra pas longtemps. Tu sens qu'il doit s'agir de ton comportement. Tu te mets en danger avec tes pitreries. Tu aimes à déranger tes camarades rient, car ils ne savent pas qu'ils risquent autant que toi. On ne laissera pas faire, on est là pour t'aider. Tu
peut rouler par terre, on ne laissera pas tomber. On va faire un projet bien personnalisé qui saura te guider sur la voie des progrès.
Perturbateur, passage à vide, animateur pendant les cours, fini la récré, récréation, tricheur, broquignol, scolarité loupée, séché, raté, dévié, violence volontaire, troisième école, double langage, menteur, hypocrite, sans activité, période difficile, galérien, respire, j'ai soufflé, voir au mire, appeler de la veine, cracher du feu.
Arrête de bouger, cesse de te balancer. Tiens-toi un peu plus droit, sois un peu fier de toi. Tu arrives à l'école et déjà tu rigoles pour oublier la peur collée à tes humeurs changeantes d'un instant. Où tu vas chancelant.
Bon, eh bien, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on ne vous a pas embêté et on est tout à fait d'accord pour que vous nous téléphoniez, que vous interveniez peut-être. Je ne sais pas si un jour ce sera possible, mais bon, on arrivera peut-être à faire ça. Voilà, donc on se revoit alors le mois prochain,
le 30 mai.
Voilà, et on parlera donc de la hiérarchie dans l'école et dans tout le
et
système.
Et dans les têtes.
Voilà. Surtout dans les têtes et dans nos classes.
Ça va être long alors comme émission. Voilà.
Merci Radio Red.
Au mois prochain.